De quoi voulez-vous parler ? C'est une question tellement large que je m'en veux parfois de la poser en amont d'une émission avec un artiste qui plus est. De quoi voulez-vous parler vraiment ? D'un sujet d'actualité quand tout est déjà dans l'œuvre de l'artiste et que c'est par cette œuvre précisément qu'il ou elle parle. Un sujet d'actualité brûlant, immédiat, vous savez, sans ce recul ou cette prise de distance sur lesquelles repose la parole de l'artiste, comme une forme de résistance à l'urgence du monde. Un sujet d'actualité avec tout ce que ça peut avoir de clivant aussi. Et pourquoi prendraient-ils parti, les artistes, sur quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas bien, pas complètement, pas encore du moins? Je vais vous dire, je la pose cette question à chacun de mes invités. De quoi voulez-vous parler en amont de chaque émission? Je la pose parce que j'ai l'intuition que la parole de l'artiste est plus forte que celle de l'expert, du journaliste, du politique. Plus forte parce qu'elle tremble, parce qu'elle est hésitante, parce qu'elle est trébuchante, toujours libre, souvent anarchique, parfois dérangeante. Plus forte parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, qu'elle est toujours sur le point de vriller, de vaciller, qu'elle préfère le point d'interrogation souvent au point final. Plus forte parce qu'elle n'a rien de ces phrases lapidaires qui sont jetées ici et là, de ces certitudes copiées-collées qu'on entend partout tout le temps, de ces discours suturés. Voilà pourquoi je leur demande aux artistes, comme une fleur, comme une nécessité aussi, de quoi voulez-vous parler ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi va nous parler notre invité d'aujourd'hui ? Elle est écrivain, son dernier roman, le 16e, je crois, tous les hommes désirent naturellement savoir. Chez Lattès, c'était pour nous l'un des plus forts romans de cette rentrée d'automne. Il est évidemment encore aujourd'hui en librairie. Et avec elle, il dit quelque chose d'aujourd'hui. Bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Alors de quoi voulez-vous parler ? Cette question, il se trouve que je vous l'ai posée, comme à tous mes invités, en préparant cette émission, et que votre réponse était très forte. J'aimerais vous l'entendre lire, si vous le voulez bien.
D'accord. Je veux parler des événements qui brutalisent la France. Je veux parler de la violence, qui est le symptôme d'une maladie. C'est la fièvre d'un corps, la violence. Je veux parler de cette crise que je compare à une crise amoureuse et du silence qui attise cette crise. Je veux parler de cet axe permanent, du haut vers le bas, des villes vers la campagne, du dirigeant vers les dirigés. Je veux parler de la misère économique qui entraîne une misère amoureuse, de cette contagion. Je veux raconter mes déplacements avec mon livre au cœur de cette France qui souffre. Je veux dire comment l'amour a circulé alors que j'évoquais l'homosexualité, la guerre d'Algérie. Je veux parler de ma seule arme, la douceur. Je veux dire pourquoi il est si important d'aller vers les autres, de raconter, de transmettre, que la politique peut aussi passer par la littérature, la poésie. Je veux dire comment et pourquoi les écrivains ont un rôle à jouer dans cette crise et pourquoi il faut protéger les artistes.
C'est un programme, ça, pour vous, Nina Bouraoui.
C'est pas un programme politique. Hein.
De quelle fièvre souffre actuellement le corps de la France ? La France, par ailleurs, endeuillée avant-hier soir par un nouvel attentat.
Je trouve très troublant et très, très angoissant d'assister à la violence du monde. De façon passive, elle nous contamine forcément. Cette violence, en effet, je la compare à un symptôme, au symptôme d'une pathologie. Il faudrait, avant de traiter le symptôme, savoir de quoi notre pays est malade. Il a été attaqué par ce que je nomme extérieur à l'intime, c'est-à-dire dans les attentats, depuis 2015, nous avons en permanence la conscience de notre finitude par des menaces de personnes pour qui nous ne sommes ni les frères, ni les sœurs. Et aujourd'hui, la violence, elle est interne, elle vient de l'intime. Ce sont nos frères et nos sœurs qui sont dans la rue. Alors, je ne parle pas des casseurs, évidemment, on est bien d'accord, mais je parle peut-être de cette violence économique et de cette solitude qui va déclencher une autre violence. C'est ça que j'aimerais comprendre. Parce que c'est comme une crise amoureuse.
Oui,
on a beaucoup parlé du silence du président, de l'attente. Et cette violence, être dehors, c'était dire « regarde-moi, désire-moi, aime-moi à nouveau ».
Vous parlez effectivement du silence qui attise cette crise. Le silence de qui ? De quoi précisément ?
De ce qu'on appelle, j'allais dire, ceux d'en haut. C'est ça qui est terrible. C'est cet axe en haut, en bas. La ville, la campagne, ou la grande ville, la petite ville. Les dirigeants, les dirigés. On parle souvent de verticalité, d'horizontalité. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois en la mixité. Aller vers l'autre. Aller au rendez-vous. C'est ce qui s'est produit. Évidemment, c'est une infime échelle. Mais je crois que les artistes ont quand même un rôle à jouer. Moi, je n'écris pas des livres qui sont là pour plaire. Ce sont un peu des oursins qu'on tient dans la main, mes livres.
C'est vrai.
Même s'ils sont enrobés de douceur, toujours, parce que c'est mon côté oriental. Mais je parle de sujets qui peuvent fâcher, qui peuvent choquer, parfois.
Quelle arme est-ce que c'est pour vous, la douceur ?
Mais c'est la plus grande des armes, c'est la plus jolie des armes. C'est celle qui fait entamer une conversation, c'est elle qui donne le langage. Lorsque je fais des conférences à Nancy, à Strasbourg, à Arcachon, à Manosque, les personnes qui sont là ne sont pas forcément dans une identité amoureuse qui est la mienne, n'ont pas forcément été impactées par la guerre d'Algérie comme j'ai été impactée. Ce sont peut-être aussi des Français qui rentrent d'Algérie, qui ont ce cœur en miettes. À Manosque, des pieds noirs m'ont pris dans les bras et m'ont dit « Nina, tu es notre sœur ». Nous sommes tous des Algériens et des Français algériens.
Diriez-vous que cette douceur, cette arme si sous-estimée aujourd'hui, c'est une arme politique, Nina Bouraoui ?
Oui, je pense, parce que à la brutalité, répondons à la douceur. Alors, ce n'est pas bené, c'est pas idiot, ce n'est pas... Mais je crois qu'on l'a perdu de vue depuis tant, tant de temps, cette douceur.
Quand est-ce que vous avez découvert ce pouvoir de la douceur, vous ?
Oh, je pense que, vous savez, moi, la littérature, l'écriture m'a sauvée. Moi, j'étais non pas en perdition, mais j'étais en proie à la violence lorsque j'étais plus jeune. J'ai été une enfant étrange, j'ai été une adolescente très tourmentée et j'ai vécu ma jeunesse en courant dans la marge. Et courir dans la marge, ça vous apprend l'école de la violence. On peut devenir violent. Moi, je n'ai jamais été violente contre les autres, mais j'étais violente avec moi-même, peut-être trop exigeante. Alors le langage m'a appris soudain la douceur. Et je ne pensais pas que j'étais une militante. Mais aujourd'hui, je veux bien l'être. Je veux bien la transmettre, cette douceur. Parce que écrire, dire, c'est instruire les autres. C'est raconter. C'est dire « je suis différente, mais finalement tu es comme moi ».
Alors c'est passionnant, hein, Nina Bouraoui, parce que en réalité vous nous parlez du rôle et de la place des écrivains dans notre société. Pourquoi est-ce que l'écrivain a un rôle à jouer pour vous ?
Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, sa parole est trébuchante, hésitante, mais elle est au cœur de l'humain. L'écrivain se tient au cœur de l'humain, l'écrivain est un humaniste, l'écrivain n'a aucune paroi avec le monde. En tous les cas, moi c'est ainsi. Je peux pleurer pour un rien, mais en fait je pleure pour beaucoup et je pleure vraiment. Je suis la sœur et le frère des autres.
Vous l'avez toujours su, ça, le pouvoir de l'écrivain ?
Oui, parce que, vous savez, j'ai grandi dans un pays qui était complexe, l'Algérie, après la guerre d'indépendance. Même si les années 70 en Algérie étaient assez lumineuses, je voyais se préparer la violence, comme aujourd'hui je regarde se préparer la violence. C'est quelque chose dans mon expérience de petite fille, puis d'adolescente et maintenant de femme adulte. Donc je crois que un écrivain, il a les yeux bien plus grands ouverts que les autres, parce qu'il a du temps. Quand même, pour regarder le monde. Et écrire, c'est restituer le monde ou restituer sa beauté perdue.
Ce que vous dites, Nina Bouraoui, c'est aussi que ce rôle est sous-estimé, que les artistes ne sont pas assez écoutés, pas assez protégés.
Oui, moi je crois qu'il faut protéger, regarder. Perdre un artiste, c'est perdre du sens. L'artiste donne du sens au monde. Il n'est pas superficiel.
Par quoi ça passe ? La
protection. Les dictatures ont chassé tous leurs artistes.
Certes.
L'art est piétiné en dictature. Et je crois que l'art, c'est la liberté.
Alors, par quoi ça passe aujourd'hui de protéger les artistes ?
Ah, vous savez, je crois que les écrivains le savent. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de, pour certains écrivains, une forme de précarité, vraiment. Je pense qu'un écrivain, pour qu'il écrive, ne doit faire qu'écrire. C'est très compliqué si on doit exercer un autre métier que l'écriture. On n'est pas immergé, il faut s'immerger. Donc il y a une urgence économique. Je crois qu'il faut inviter, comme vous le faites le plus souvent, les écrivains, il faut leur donner la parole. Il faut montrer le livre non comme un objet repoussant, ça c'est le rôle des libraires aussi. Il faut peut-être se dire que dans la société, chacun a accès à la culture. Moi, je l'ai vu, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément des lecteurs. Mais tout d'un coup, l'espace d'une heure, ils sont devenus des lecteurs, ils sont devenus à nouveau acteurs de leur propre vie. Parce que quelqu'un racontait leur vie avec d'autres mots, mais qui étaient quand même les leurs.
celle qui ne nous protège absolument pas dans cette émission, parce qu'il y en a une quand même, c'est la culture. Et son actualité contagieuse, justement, pleine de germes et de miasmes. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 13 décembre?
C'est ça qui est bien dans le fait d'écrire aussi. Vous avez votre vie, qu'est-ce qu'elle aime? Vous avez une autre vie, vos petits personnages que vous faites vivre. Enfin, moi j'adore, quoi, en fait.
Il y a une espèce d'ivresse, hein. C'est vrai qu'on se sent un peu Dieu quand on crée des personnages qui ont l'air de vivre.
Michel Dudésir, après plusieurs semaines de suspense, le titre du prochain roman de Michel Houellebecq a été révélé hier. Il s'appellera Sérotonine, comme cette hormone associée à l'état de bonheur qu'on retrouve notamment dans les antidépresseurs. Longue de 347 pages, la septième livraison de l'auteur de Soumission mettra en effet en scène un héros dépressif. Publié chez Flammarion le 4 janvier prochain, le livre bénéficiera d'un tirage exceptionnel de 320 000 exemplaires.
Bon, je suis amoureux, voilà. Il s'en fout de moi, je pense, mais je suis persuadé que je vais faire changer d'avis.
Fais arrêter de voir mon breton bizarre.
J'aime les gens qui doutent.
Honoré, le prix Louis Deluc 2018, surnommé le Goncourt du cinéma, a été attribué hier au cinéaste Christophe Honoré pour Plaire, aimer et courir vite. Bouleversante chronique de l'impossible amour entre deux hommes dans la France des années Sida. Dans le même temps, le jury a remis le prix du meilleur premier film à deux œuvres ex aequo, le terrifiant Jusqu'à la garde de Xavier Legrand et le sensuel Les garçons sauvages de Bertrand Mandicot. Bravo les gosses beaux.
On veut essayer de tout le temps de nouvelles choses, d'ouvrir de nouvelles pistes, oxygéner un petit peu le monde de l'art, amener des tendances qu'on n'avait pas devinées, des acteurs qu'on ne soupçonnait pas.
L'école de Loisy, actuellement directeur du Palais de Tokyo, Jean de Loisy a été nommé hier par le ministre de la Culture Franck Riester à la tête de l'école nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Passé par la Fondation Cartier, proche d'Anish Kapoor et d'Hiroshi Sugimoto, l'homme de 61 ans sera chargé d'apaiser la situation dans une institution secouée par les polémiques et de faire de l'école, qui possède des ateliers en plein cœur de la capitale mais aussi à Saint-Ouen, l'un des poumons artistiques du Grand Paris.
I don't give a postcard picture of Valentino. Passion is about the moment. Beauty is about eternity.
Créateur de gloire, Pier Paolo Piccioli, directeur artistique de la maison Valentino, a été élu meilleur créateur de l'année lors des Fashion Awards 2018, genre d'Oscar de la mode, qui sont déroulés à Londres. Artiste discret, chantre d'une mode colorée et légère, Piccioli fait souffler sur la marque italienne depuis 10 ans un vent de modernité enchanteresse, et à coups de froufrou, acidulé, d'imprimés botaniques, de tombées monochrome, bravissimo, Pier Paolo. Et la romancière Nina Bouraoui, invitée de Boomerang ce matin à la rentrée dernière, paraissait votre 16e livre, dans lequel vous dressiez, Nina, quelque part, l'histoire de votre homosexualité. Et moi, je l'ai lu comme un livre sur la honte. Qu'est-ce qui vous évoque, à vous, ce mot honte?
La honte a été... C'est un mot qui a accompagné de nombreuses années. Et bizarrement, ce livre m'a appris que la honte n'était pas terminée en moi. Je crois que, alors je l'ai défendue, j'en ai parlé, je l'ai accompagnée. Je trouve assez pathétique lorsqu'on dit que nos livres sont nos enfants. Non, mon livre n'est pas mon enfant. Mais bizarrement, je lui ai tenu la main. Et j'ai vraiment tenu à l'éclairer, à le défendre, parce que j'ai serré l'enfant que j'ai été dans mes bras. Je me suis réconciliée avec l'adolescente que j'ai été et j'ai surtout évoqué cette honte commune à tous les homosexuels de quitter la norme. C'est très difficile de quitter la norme, il faut être très fort, il faut être armé. Et puis lorsqu'une société ne vous représente jamais, ou quand elle vous représente par le biais de l'obscénité, par le biais du refus, par le biais du dégoût, cette haine des autres... est inoculé, s'inocule en vous, forcément. Et j'ai fait l'expérience, comme tous les jeunes homosexuels, je crois, hélas, de mon propre dégoût, de mon propre rejet, de ma propre homophobie.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait honte?
Ah, ce qui me fait honte, c'est lorsque j'ouvre mon ordinateur, je suis très suivie dans les réseaux sociaux par de jeunes homosexuels. Et le lundi, il y a des photographies de visages tuméfiés parce que deux garçons sont sortis dans un bar gay, parce que deux filles se sont tenues la main dans la rue, parce qu'on les a molestées. Oui, ça, j'ai honte. Je ne comprends pas. Je crois que persécuter une minorité, c'est persécuter le cœur d'un pays.
Votre homosexualité, Nina Bouraoui, au départ, enfant, vous la viviez comme quelque chose de parfaitement naturel. Vous écrivez « L'homosexualité ne vient pas du désir, du choix. Elle est, comme on pourrait le dire, de la composition du sang. » Qu'est-ce que ça veut dire « elle est » que vous mettez en italique, ce verbe être?
Je crois en la nature homosexuelle. Un adulte homosexuel a eu un passé, une enfance homosexuelle. Ce n'est pas « je suis convaincue ». ce n'est pas un choix. Après, ça peut être un choix de la vivre ou de ne pas pouvoir la vivre. Mais c'est comme la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Et cette homosexualité, un enfant n'a pas de morale, morale dans le sens de censure. Oui. Moi, j'étais très heureuse dans les criques en Algérie, au soleil, avec toutes ces femmes. J'avais beaucoup de chance parce que ma mère était magnifique, elle avait des amis magnifiques, ma sœur avait des amis magnifiques, elle était elle-même magnifique. Donc j'étais dans une sorte de gynécée splendide où la douceur et la beauté des femmes étaient très inspirantes parce que j'écrivais déjà. Et j'avais l'impression que j'étais instruite à la beauté, que c'était comme un tatouage et que j'étais justement juste avec la fille que j'étais. Je ne mentais pas. J'étais bien parmi ces femmes. J'aimais les aimer, je changeais d'amoureuse tous les jours. J'avais des fantasmes, j'admirais toutes ces femmes. C'est après, à l'adolescence, lorsqu'on comprend qu'on est différent, qu'on cache sa nature et qu'on se ment.
Est-ce que ça implique, est-ce que ça rend nécessaire, presque sous forme de responsabilité, c'est de déconstruire le regard dominant qui est porté sur l'homosexualité et qui en fait une anomalie, une erreur, une déviance? On n'en sortira jamais de ça?
C'est affreux, j'ai l'impression que non, mais quand même, il y a une sorte de, quand même, de visibilité aujourd'hui. On peut en parler, je peux écrire, je peux rencontrer des hommes et des femmes qui ne sont pas concernés par cela, mais qui me disent merci, parce que parfois il y a un enfant qui est en souffrance. J'ai un courrier extraordinaire. Parfois il est par mail, ce sont les plus jeunes. Les plus jeunes ont 16 ans, et les plus âgés c'est par lettre. Elles ont ou ils ont 84 ans, 85 ans, ces homosexuels qui ont vécu leur histoire parfois encore dans le placard. Mais je pense que quand même, les choses changent. Je crois que aussi le mouvement des femmes, ce mouvement MeToo, ces femmes qui ont parlé, et même si on remettra en question leurs paroles, non, elles ont parlé. Et ça va nous aussi, nous contaminer. Toutes les minorités doivent se tenir la main. Je ne dis pas que les femmes sont une minorité, mais elles sont aussi dans le camp des fragilités. Oui. Puisque les femmes se révoltent, puisque les femmes parlent, je pense que ça va faire monter le reste.
En tout cas, le lieu de cette déconstruction, pour vous, ça a été un double lieu, en fait. Celui d'un bar lesbien parisien et celui de l'écriture. J'aimerais lire un très court extrait de votre texte, si vous le voulez bien. J'éprouve aux quatre une forme de honte sociale, une honte dont j'ai honte. Je côtoie des femmes étrangères à mon milieu, des ouvrières, des anciennes détenues, des prostituées. Nous nous mélangeons par fatalité, obligés par un dénominateur commun, notre orientation sexuelle. Je souffre de ma propre homophobie. Je me méprise moi-même quand je me moque des couples de filles enlacées sur les banquettes de la piste de danse, dans la rue, pour les plus courageuses. Je leur en veux de s'afficher ainsi. Elles risquent de me compromettre. Je suis jalouse de leur liberté. Je fais l'expérience de la délinquance sans commettre de délit. Ma présence assidue aux quatre m'en convainc. Seule l'écriture est innocente. Je la pratique avec une grande liberté. Je n'ai pas d'horaire, pas de contrainte. Elle survient abrupte, sèche, invasive, et s'efface dès que je regagne la nuit. Seule l'écriture est innocente. Qu'est-ce que ça veut dire, Nina Bouraoui?
Parce que l'écriture est libre, c'est peut-être à cet instant, quand je suis dans le territoire de l'écriture, que je suis la femme la plus libre au monde. Quand je parle de liberté, je parle de mes propres chaînes. Je suis quelqu'un encore d'enchaîné. Peut-être parce que je viens d'un mariage mixte, peut-être parce que ma partie française maternelle ne m'a pas toujours accepté, peut-être parce qu'aujourd'hui, mon père, à mes yeux, en France, reste encore un étranger, j'ai l'impression. Donc toutes ces chaînes se défont lorsque j'écris, parce que j'ai l'impression d'ouvrir la porte d'un deuxième monde, mais qui est peut-être le monde le plus vrai. Dernièrement, un conférencier m'a appelé le petit prince de Saint-Exupéry, et j'ai trouvé ça étonnant. Et finalement très juste. Je crois en l'amour qui appelle l'amour et en la liberté qui appelle la liberté. Et le livre est cet instrument-là. Et vous voyez comme j'étais violente dans ce Katmandou, que j'ai adoré. Oui, l'expérience de la délinquance, mais qui n'existe pas. Mais j'avais l'impression d'une transgression, alors que j'occupais ma nature.
Quand est-ce que vous êtes parvenue à comprendre que les mots ne réparent pas, Nina Bouraoui? C'est ce que vous écrivez un peu plus loin.
Oui, parce que je ne crois pas du tout au livre médicament. L'écriture n'est pas une thérapie. En revanche, elle a une mission, c'est réparer les autres. Voilà, moi j'écris pour les autres, je n'écris plus pour moi. J'ai longtemps pensé que j'écrivais pour moi, j'ai longtemps pensé que je voulais trouver de l'amour par l'écriture. C'est pas vrai. L'amour, c'est dans l'intimité. En revanche, entrer dans la chambre de quelqu'un seul pendant une heure de lecture et qu'ils se disent « je ne suis pas seul, en effet, ça existe ». Comme moi, quand je lisais, quand j'ai découvert Guibert, quand j'ai découvert Le Duc, quand j'ai découvert plus jeune Colette, même si c'était les Claudines à l'école, mais je me disais « ça existe, donc c'est vrai, c'est écrit, c'est vrai ».
Ça brise le silence. Aussi.
Nous avons besoin de représentations d'artistes et je trouve qu'il n'y a pas encore assez de femmes homosexuelles qui écrivent, qui font des films, qui font du théâtre, qui peignent. Il n'y en a pas encore assez parce que les femmes sont encore dans la marge.
On va reparler de marge, Nina Bouraoui, d'écriture, de mots, juste après une bouffée de langage, de joie et de lumière, parce qu'on en a besoin quand même, tous
oui.
les matins. Björk, It's Oh So Quiet, 1995, sur l'album Post. Vous êtes sur France Inter avec Nina Bouraoui. Vous écoutez Boom Rang.
It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in.
Wow, wow!
You never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over, and then. It's nice and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, shh. Starts another big riot. You blow.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Avec sa douceur, son calme, son irrésistible malice aussi dans le regard, elle est sans conteste ce que l'on appelle en cas de déprime, un antidépresseur. Vous savez, elle est celle qu'on appelle à coups de litres de verveine, d'un doigt de gin et d'un sachet de Maltesers. Elle vous remonte le moral avec ses longs cheveux noirs, son visage aux traits si fins qu'ils semblent avoir été sculptés ou peints, son élégance naturelle avec sa chemise en jean ce matin et son petit collier autour du cou. La romancière Nina Bouraoui, invitée de Boomerang pour parler d'écriture, de littérature, de féminin aussi, à travers ce personnage féminin notamment qui compte plus que tout dans votre vie, qui est celui de votre mère. Quelle femme est-ce qu'elle est, votre mère, en vrai ?
C'est un personnage de roman. Au départ, le livre devait lui être totalement consacré. Et je me suis rendu compte que finalement, ce livre, c'est aussi un livre sur la liberté. Sommes-nous libres ou non libres ? Et je crois que nous ne connaissons pas ceux qui nous ont donné la vie, donc autant les réinventer. Et je me suis invitée à ses côtés dans ce livre pour lui rendre hommage, parce que peut-être, comme tous les homosexuels, ma mère a été une figure centrale. Nous avons formé un drôle de couple, c'est certain. Moi, j'ai fait un Oedipe à l'envers, je suis tombée amoureuse de ma maman. Je lui disais, je t'épouserai plus tard, et puis tu n'auras aucun souci d'argent, je t'achèterai un château.
Et qu'est-ce qu'elle répondait ?
Et tu fumeras ton cigare, j'aime bien l'image de la richesse. À 5 ans, ma mère était très flattée, souriait. Ce que j'ai aimé chez ma mère, et je voulais lui rendre hommage aussi pour ça, c'est que malgré ses fragilités, c'est toujours quelqu'un de très fort, mais aussi de très fragile, qui a connu des brisures dans sa vie, qui a connu des choses très inappropriées, très choquantes, qui est arrivée en Algérie, on l'appelait la Suédoise, après la guerre d'Algérie, tellement elle était blonde aux yeux bleus, et qui arrive dans un pays qui est très mouvementé par la fin d'une guerre d'indépendance très cruelle dans les deux camps. Mais elle va aimer l'Algérie.
Elle avait peur de rien.
Non, de rien, parce que c'était fou. Elle se faisait parfois, bien sûr, insulter. Et il y a une... Pour moi, je perds mon enfance un jour à 8 ans. Quand j'ouvre la porte, il est midi. Et que ma mère arrive avec sa si jolie robe jaune à cœur rouge. Une robe Emmanuel Kahn, je me souviens, parce qu'il y tenait beaucoup à cette robe. Déchirée de la suie sur le torse. Elle cache ses seins parce que sa robe est déchirée. Elle a des crachats dans les cheveux. Et mon enfance s'arrête là. Et surtout, je rentre dans une logique où je dois toujours maintenant protéger les femmes que j'aime et protéger ma mère.
En quoi est-ce que l'écriture, Nina Bouraoui, a-t-elle été une manière de reconstituer cette image manquante, en fait, ce récit absent, cette souffrance, cette violence de votre mère, cet événement dont vous parlez ?
J'ai une écriture photographique. Cette scène, je l'ai répétée, j'entends le bruit aussi, parce qu'il y avait une centrale électrique dans la résidence où nous habitions, qui était cachée, il y avait un grand parc dans le parc, et quand ma mère ouvre cette porte, la centrale électrique se recharge. Et finalement, je crois que ces scènes m'ont donné aussi la volonté de tout d'un coup, non pas inventer ma vie, mais de la réécrire peut-être pour prendre de la distance. C'est un tableau presque poétique, alors il est d'une extrême violence, mais c'est dire aussi toute la fragilité et toute la beauté des femmes.
Vous dites photographique, et ça tombe bien, parce que c'est un texte sur les raisons de l'écriture que vous nous avez écrit ce matin et qui commence ainsi. J'aimerais, pour terminer cette émission sous le signe des mots, que vous nous le lisiez.
D'accord. Je rêve d'un appareil photographique qui restituerait les mouvements de la vie en train de se vivre, de se consumer, que rien ne se perde, que rien ne s'évanouisse, que chaque seconde, que chaque atome soit figé sur une image. Ce serait un appareil à donner l'éternité. Je sais qu'il n'existe pas, mais j'aime penser que l'écriture le remplace, qu'elle rapporte au plus près, au plus vrai, les voix et les gestes, les lumières et les silences. Que le livre soit un livre de chair et de souffle, de sueur et de sang, que l'écriture soit une écriture vaudou qui annoncerait un événement. J'ai longtemps cru que j'avais choisi une vie isolée, hors du monde, pour me protéger d'un mal imaginaire qui me rongeait. J'ai longtemps pensé que j'étais fragile, que j'avais tort, que la vie dans l'ombre n'était pas la vraie vie. Quand je dis l'ombre, j'évoque la chambre où j'écris, j'évoque le temps de la création, j'évoque la solitude. Mais je me suis trompée. J'écris parce que j'ai de la force. J'écris parce que l'écrivain se tient au centre de tout. J'écris car aucune paroi ne me sépare du réel. J'avance sans arc ni flèche, sans couteau ni épée. Je sais le bruissement ou le cri. Je sais la colère ou l'amour, je sais, la peur ou la confiance. Écrire, ce n'est pas juste faire de la poésie, ce n'est pas juste réinventer la beauté quand elle disparaît. Écrire, ce n'est pas juste bâtir une partition, non. Écrire, c'est donner une voix aux hommes et aux femmes qui constituent une foule. C'est rapporter la souffrance et c'est dire les espérances. C'est trouver la rivière et l'or de la rivière. Écrire, c'est épouser le cœur des autres.
C'est tellement fort, Nina Bouraoui, merci infiniment pour ce texte inédit. Merci d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci pour votre investissement, pour vos mots, pour votre langue. Votre dernier roman, Tous les hommes désirent naturellement savoir, est publié chez La Thèse. Il est encore en librairie et en bibliothèque. La destinée d'un livre
oui.
n'est pas de 15 jours
non.
ou de 3. Et on s'en réjouit. Tout de suite, c'est l'heure des médias.
Merci.
Sonia De Villers, juste
merci
après ça.
Beaucoup.
Si tout pouvait se jouer à 5 dollars. Sonia De Villers, c'est à votre tour. Les médias, l'instant M.
Exactement.
À demain.
Salut Augustin. Ciao.